francesynthèse.com.
Ben ça y est, on va tous crever. Mais nous, les vieux écolos, on va crever aussi. Nous, les passéistes du retour à la bougie, etc., on va crever pareil. Mais nous, on va crever contents, parce qu'on aura eu raison. C'était Michel dans les Ardennes.
L'accès à l'eau, la santé, l'éducation, l'agriculture, va accroître les besoins en énergie à l'échelle d'une planète toujours plus peuplée. La réduction des pertes énergétiques et les énergies renouvelables, y suffiront-ils? Faut-il un retour à une maîtrise énergétique publique ou continuer à confier cette activité à des opérateurs privés? Quelle politique et source énergétique à l'échelle mondiale garantirait le droit à l'énergie pour tous? Régis, de Nîmes.
Bonjour, radioprotectionniste, il y a quelques années dans les locaux de Cogéma, aujourd'hui Areva, et je suis bien placé pour vous dire que la transparence chez Areva, ce n'est pas quelque chose qui est très coutumier. À l'époque, dans cette installation Areva, contrôlée par le CEA, quand il y avait des visites extérieures, nous coupions toutes les sécurités, nous coupions la sono, ce qui fait que les visiteurs extérieurs pouvaient se balader tranquillement dans l'installation, en pensant qu'aucun incident, tout était propre, tout était nickel, tout était clean. Et dès qu'ils avaient le dos tourné, qu'ils avaient passé la porte, et nous remettions en route les sécurités. Voilà. Et quand il y avait des incidents, voire certains accidents, la première préoccupation des directions locales d'Areva, eh bien, c'était de passer ça sous le manteau, de faire en sorte qu'il y ait une chape de plomb et que surtout, ça ne transpire pas. Alors, Areva aujourd'hui, aurait-elle changé? Merci, c'est Jean-Marc.
Bonjour Daniel et bonjour à toute la population mondiale. Je vous explique rapide à propos de la centrale de Fukushima. Je suis formateur en soudure depuis 30 ans, j'ai travaillé à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux. Quand j'ai vu ce qui se déroule en ce moment au Japon, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour aider à trouver une solution pour envoyer de l'eau dans la centrale. Eh bien, de monter une mégapompe sur un VAB. Un VAB, c'est un véhicule blindé amphibie, hein, on en trouve de partout, qui flotte et qui roule sur terre. Donc monter rapide la mégapompe avec des crochets et avec des cliquets, ceux de l'industrie savent ce que c'est. Avec une tubulure longue de plus ou moins 500 mètres pour alimenter en eau, avec des flotteurs pour flotter, faire arriver l'engin par la mer, monter dessus des radiocommandes avec des vérins pour pouvoir la commander à distance. On s'est arrivé par la mer, monté sur le remblai pour accéder à la centrale. Je me suis dit, mais comment je peux transmettre mon idée? Eh bien, j'ai téléphoné à l'Elysée, j'ai eu un monsieur très poli, je lui ai demandé si je pouvais avoir une personne de compétente pour pouvoir transmettre mon idée. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Mais monsieur, envoyez-nous un fax ou alors écrivez-nous. Il m'a dit, écrivez-nous. Je lui ai dit que la situation n'attendait pas mon courrier, il fallait absolument que je parle à quelqu'un. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Mais vous savez où vous êtes? À l'Elysée. On n'a pas les gens comme ça. Il faut écrire ou envoyer un fax. Alors, comme si je ne savais pas que j'étais à l'Elysée, j'ai trouvé le numéro dans les pages jaunes. C'est le 01 42 92 81 00. J'ai fini par lui dire, finalement, parce qu'il m'a énervé, qu'on était dans une république de merde. Alors, on a fini par accrocher. Mais je suis rassuré, aux infos, j'ai vu qu'ils allaient envoyer un camion américain avec le système que je voulais expliquer. Donc, tout va bien. Finalement, le sort du monde ne tient au bon vouloir que d'un espèce d'abruti qui tient le standard téléphonique. Sur ce, j'espère que ce sera pas pire que Tchernobyl, mais je crains le pire. Salut à tous.
Ah, la France est un pays formidable. On apprend aujourd'hui que la France va envoyer des capsules d'iode dans ses territoires ultramarins, dans les dom-tom, alors à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. La Polynésie française, tiens, parlons-en. Eux, le nucléaire, ils connaissent bien, parce que, petit rappel historique, de 1966 à 1996, la France a fait péter 193 bombes atomiques en Polynésie française. Ça a duré 30 ans, 47 ans en essai aérien et le reste en souterrain. Et bah, les Polynésiens, ils sont contents que la France d'un seul coup leur envoie de l'iode parce que ça fait 45 ans qu'ils l'attendent. Ce qu'ils attendent, ces capsules d'iode, ils n'en ont jamais reçu. Et pour bien se rendre compte de ce qui s'est passé là-bas dans un silence absolument assourdissant pendant 30 ans, Si on va sur le site officiel du CEA, on peut quand même avoir quelques documents qui ont fini par sortir. Et on apprend qu'à Mangareva, c'est-à-dire à 400 km de Moruroa, le 21 juillet 66, c'est-à-dire après le tir aérien, le 2 juillet exactement, le premier tir aérien français, l'île de Mangareva recevait une dose de 580 microsieverts. Par comparaison, aujourd'hui, les Japonais, aux alentours de la centrale, prennent 400 microsieverts. Voilà, et on les a fait évacuer. Et là, on a fait évacuer personne. Il y a une population d'environ 1200 personnes qui sont restées sous ce nuage atomique pendant des heures, dans un silence assourdissant. Et ça a duré pendant 30 ans, ce silence. Donc, les Polynésiens sont ravis que 45 ans après, la France leur envoie des capsules d'iode. Merci.
Non, c'est vrai ce qu'elle me dit, là. Je suis chez une amie, on était en train d'écouter le traiteur, et puis brusquement, je vois qu'il réagit là à propos du nucléaire. Elle me dit, ah, c'est un choix, tu parles l'autre là, Sarkozy, au moindre événement qui a rapport avec la sécurité, il prend une loi. Et puis là, pour le nucléaire, il dit, c'est un choix de plusieurs décennies, rapporte l'autre vassal Besson. Et puis, c'est pas un choix de notre gouvernement, ça c'est depuis longtemps qu'on fait du nucléaire. Donc on va rien changer. Ah mais moi je croyais qu'ils allaient faire la rupture, là. Et puis, eh bien, ils le font pas pour tout. La sécurité sociale aussi, c'est un choix. Et la retraite à 60 ans, c'est un choix. Enfin, le principe d'une retraite pour des gens qui sont fatigués par plusieurs années de travail, le principe de la solidarité, quoi, c'est un choix. On peut choisir ça. Tout comme on peut choisir le nucléaire et puis le démantèlement du service public. C'est un choix.
Bonjour, là-bas chez J'y suis, c'est Claude en Saône-et-Loire. Oh, simplement pour rappeler, comme ça, qu'il y a eu il y a déjà pas mal d'années un superbe livre qui s'appelait Tchernobyl sur scène. C'est très très intéressant, on voit toujours, d'Hélène Crié et Yves Lenoir. Puis était paru en 1986 un passeport survie chez Jean-Claude Lattès de Ghislain Loustalot. Voilà. Et puis aussi dans les années 74, un film japonais qui s'appelait, je me souviens, La submersion du Japon. Ouais. Puis sinon, le 8 juillet 2008, qu'est-ce qu'ils sont devenus les 74 kilos d'uranium qui ont été rejetés au Tricastin, hein? Ça, on ne sait pas. Allez, au revoir et bravo.
Eh bien, justement, le Tricastin, on va en parler aujourd'hui, mais je voudrais revenir sur... ce message de cet auditeur qui dit on va tous crever, mais nous les vieux écolos, on va crever avec le sourire parce que on l'avait bien dit. Et c'est vrai, ben oui, que ces grincheux, ces écolos parano, ces cassandres, ces passéistes, ces jamais contents, ben là, ils redressent un petit peu la tête en disant on l'avait bien dit. Mais ça tombe très bien ce qui se passe au Japon pour nous, la France, parce que on va faire des retours d'expérience. Ce qui se passe là-bas, au Japon, va nous servir à garantir la sûreté, la sécurité de nos centrales nucléaires. C'est formidable. On va continuer comme auparavant, mais avec plus de sûreté, plus de sécurité, et surtout plus de transparence. Là, maintenant, vous saurez tout. Déjà que vous saviez tout. Oh là là, oui, vous étiez au courant de tout. Le moindre journaliste qui essayait de savoir un petit peu ce qui s'était passé, des rumeurs, bien évidemment, en 2008, dans la centrale du Tricastin. On pouvait déjà tout savoir, c'était transparent. Mais là, ça va être encore plus transparent et encore plus en sécurité. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, eh bien, oui, c'est le moment du traumatisme, c'est le moment des questions tout à fait irrationnelles autour de la centrale du Tricastin. C'est quand même un site nucléaire important, hein, 5000 personnes, avec le Rhône qui passe tout près, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un risque de tremblement de terre, car une faille sismique passe à proximité. Et on ne nous l'avait pas dit jusque-là. Alors ça, c'est extraordinaire. Et bien voilà, c'est ça, le retour d'expérience. On va pouvoir dire, oui, il y a une faille sismique qui passe à proximité de la centrale du Tricastin. En 2008, là-bas, si j'y suis, tout comme les vieux écolos, étaient là-bas. Antoine Chao avait fait une enquête sur un incident mineur, de rien du tout. Oh là là, vous inquiétez pour rien, autour du Tricastin. Voilà pourquoi nous revenons dans cette région et nous revenons sur ce sujet aujourd'hui, suite à cet incident qui avait été baptisé Série Noire à la centrale nucléaire du Tricastin. Donc c'était en juillet 2008, souvenez-vous, une centaine de salariés avaient été contaminés dans l'enceinte du réacteur numéro 4. Incident insignifiant, bien évidemment, pour la direction de la centrale. Vous savez, la mauvaise foi de ces salariés, de tous ces gens-là qui sont toujours prêts, comme les vieux écolos finalement, à grincher et à montrer leur côté profondément passéiste. C'est notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Généralisation de la vidéosurveillance. Couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans. Libéralisation des marchés de la sécurité, services volontaires citoyens, expulsion sous 48 heures des habitats différents, test VIH imposé, flicage de l'Internet. L'OPSI 2, loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, numéro 2. C'est le prochain repère de Nantes, vendredi 18 mars, à partir de 19h19, au Méliès.
On vient de me raconter une blague, alors je vous la transmets. C'est l'histoire d'un mec qui vit avec sa femme qui a été licenciée pour raisons économiques et le gars il a un mal fou avec un seul salaire à subvenir aux besoins de sa famille, trois enfants, tout ça. Alors voilà, et il écrit à Gaz de France, il perd le courrier et il reçoit un coup de fil comme quoi il va être coupé demain. C'est mort de rire quand même. Je suis plié en deux. Voilà, bah, s'il y en a d'autres qui ont des bonnes blagues comme ça, n'hésitez pas. Hein. Voilà, bravo pour vos émissions. Voilà, moi c'était Nico. Putain de merde, saloperie de pays de merde.
On prend au SMIC, dans le nucléaire, on travaille en 3-8. Quand vous avez des équipes qui interviennent en salle des machines, Alstom, ils font de la mécanique, et sur l'équipe de 5 personnes qu'il y a, il n'y a aucun mécanicien. Il y a un boulanger, deux pâtissiers et un chef d'équipe.
Les prestataires, on va dire quelque part qu'on est des exécutants. On exécute tout simplement.
Mais alors si vous avez voyagé, vous faites partie de ceux qu'on appelle les nomades du nucléaire.
Exactement,
c'est ça?
Oui, c'est ça.
Pour les habitants, il y a des consignes de sécurité.
Pour les crocodiles, oui, enfin ce sont des procédures de confinement, de la même manière que pour les individus humains.
L'acceptabilité du risque nucléaire, donc, est un compromis avec l'ensemble de la population.
Eh bien, malheureusement, c'est au détriment des gens qui travaillent sur ces installations, les hommes et les femmes. Et tant qu'on ne viendra pas voir dans quelles conditions se font les interventions, on aura de graves incidents, quoi. Il y aura des accidents plus graves que ceux qu'il y a actuellement. L'industrie nucléaire ne va pas si bien qu'on veut nous faire croire.
Salut, c'est Daniel Mermez, et là-bas, si j'y suis avec Antoine Chao, il ne s'est rien passé à Tricastin. Parole de crocodile.
Flight number 2, arriving from New York.
France 3, 24 juillet 2008.
Les riverains de la centrale nucléaire du Tricastin inquiets après le nouvel incident d'hier. Une centaine de salariés légèrement irradiés par une poussière radioactive, sans risque pour leur santé, selon les spécialistes.
Bonsoir, l'hôtel Le Tricastin.
Oui.
Oui, je cherche une chambre sur Pierre Latte.
C'est bon.
Vous avez de la place?
Oui.
D'accord. Je voulais un petit renseignement supplémentaire. Bon, vous n'allez pas me trouver très courageux, mais je voulais savoir si vous n'étiez pas trop près du site nucléaire.
Pierre Latte, c'est à... Pourquoi, vous avez peur des radiations?
Bah écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes sur le site de Pierre Latte.
Il n'y a aucun problème. Le seul problème, c'est qu'il y a les Verts qui inventent n'importe quoi. Enfin, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que j'ai tous les ingénieurs.
Et donc après, vous avez tout ce qu'il faut en cas d'alerte, des pastilles d'iode, etc. Vous êtes équipé pour les clients?
Mais je vous assure, monsieur, que que vous risquez absolument rien, qu'il n'y a jamais eu de problème à Pierrelatte. Hein. C'est tout de l'intoxication.
De l'intoxication.
De l'intoxication. Il y avait des Russes que Areva vend des centrales aux Russes. Pour leur faire visiter le site, ils ont une combinaison, vous savez. Ils ont un compteur Geiger sur la combinaison. Et ils passent sous une douche pour enlever les particules. Bon. Et quand le compteur Geiger dépasse un certain nombre de radiations, au lieu de rester 10 minutes, il reste 20 minutes sous la douche. Mmh. Et là, il y a eu les 40 personnes qui ont été irradiées un peu plus. Donc, ils sont restés 20 minutes pour ne pas avoir de problème.
Les Russes ont été irradiés.
Enfin, les Russes qui étaient là, quoi. Les ouais, 40, ils n'ont pas été irradiés. Vous avez bien compris. Ils ont le compteur Geiger qui a montré qu'il fallait qu'il reste 20 minutes sous la douche des contaminantes au lieu de 10 minutes.
D'accord.
Pour avoir aucun problème.
Mais donc, ils ont acheté quand même.
Les journalistes en ont fait 40 irradiés.
Ah.
Vous avez compris le truc? Voilà. Ils rigolaient, ils disaient, mais c'est pas possible d'être aussi con.
Les Russes rigolaient?
Non, les ingénieurs français qui étaient là aussi, ils rigolaient. Mais les Russes, ils disaient, mais nous, en Russie, bon là, peut-être c'est pas bien. On prend jamais des protections comme ça, nous, en Russie.
Oui, en même temps, en Russie, ils en ont vu d'autres.
Ils ont fait Tchernobyl quand même. Hein, voilà. Mais n'ayez crainte, je crois, monsieur, d'accord, que vous ne risquez absolument rien.
Mais,
c'est toute l'intoxication. Il n'y a aucun problème sur le réacteur. Hein.
Ah bon?
Ouais.
Les deux barres de combustible?
Il
n'y
a rien du tout.
Tout ça, c'est rien.
Je parlais parce qu'avant-hier, il y avait un article dans les journaux, ils me disaient, attendez, rien du tout.
D'accord.
Rien du tout.
Bon, bah, je vous remercie, je réfléchis, je vous rappelle.
Vous réfléchissez, monsieur.
Ah. Au revoir.
Et oui, voilà. Qu'est-ce qui se passe à Tricastin? Rien. Absolument rien. Il ne s'est rien passé. Rien de grave, en tout cas. C'est les médias qui nous intoxiquent et qui nous ont intoxiqués. Les médias, voilà, l'ennemi. Les médias donnent une mauvaise image. Ce qui compte, c'est l'image. Et il faut changer l'image. Quand elle est mauvaise, il faut la blanchir. Par exemple, vous fabriquez des ballons cousus par des mômes en Afghanistan. Eh ben, vous faites dans l'humanitaire, vous faites dans le caritatif. Ou bien vous pouvez maintenant verdir votre image. C'est-à-dire, vous faites dans l'écolo, dans Nicolas Hulot, dans le Ushuaïa, dans le développement durable. C'est un très bon créneau, mais tout ça est à faire d'image. Ce qui compte, c'est la représentation, et c'est ça la société de spectacle, c'est la représentation. Alors, à qui faire confiance pour savoir ce qui s'est réellement passé à Tricastin, ce qui se passe depuis quand même pas mal d'années en matière de nucléaire? Vous savez bien sûr que les nuages, c'est comme les effondrements financiers, ça s'arrête à nos frontières, mais enfin, il y a eu quand même quelques événements en matière de nucléaire. À la socaterie Areva, Bolène, Vaucluse, graphite, d'uranium, le 7 juillet, c'est pour ça que nous sommes là. À la FBC Areva, à Romans-sur-Isère, Drôme, découverte le 18 juillet de contamination par une canalisation rompue depuis des années. À la centrale nucléaire EDF de Tricastin, Drôme, 100 salariés contaminés le 23 juillet, donc quelques jours plus tard, toujours à Tricastin. À la centrale de Saint-Alban-Isère, 15 salariés contaminés le 20 juillet. À nouveau, à la socaterie Areva, selon les aveux le 6 août de rejets illégaux depuis des semaines de carbone 14 radioactif, à la Comurex Areva Pierrelatte-Drôme, aveu le 21 août de contamination par une canalisation rompue, elle aussi depuis des années. Ça fait quand même un petit peu beaucoup, même si ce sont les gens de sortir du nucléaire qui nous disent tout ça. Qui nous disent tout ça, mais vous leur faites assez confiance. Et oui, ce qui s'est passé à Tricastin a suscité un sondage, le Monde IFOP. Alors, sondage, toutes les réserves d'usage doivent être faites. Mais à la question, à qui faites-vous confiance pour vous informer en cas d'incident nucléaire? Les Françaises et les Français ont répondu d'abord aux associations de protection de l'environnement à 79%. Ensuite, à l'ASN, autorité de sûreté nucléaire à 62%. Ensuite, aux élus locaux, quand même, 55%. Et puis ensuite, donc en dessous de 50%, à EDF, 46%. Aux médias, 40%. À Areva, 32%. Et au gouvernement, 30%. Il y aurait comme une sorte de manque de confiance concernant le nucléaire. À qui faire confiance pour fonder une opinion, sachant, et ça c'est vraiment inquiétant, qu'on va vers la privatisation du nucléaire dans notre bel hexagone. Voilà ce qui nous intéresse jusqu'à 16h, la basse édition.
Depuis qu'on parle de l'hiver nucléaire pour les hommes, est-ce que ça sentirait pas un peu la fin de l'automne? Méfions-nous, l'empire de la thune veut encore exploser l'atome. Ils craignent les énergies qui coûteraient 3 centimes. Au début des 60s, les USA ont poussé la France à d'y laisser. Contrat de nucléaire civil soit des centrales au grand jour et la bombe en secret. Alors ici encore on fait des watts avec, même si c'est un gouffre économique. 300 milliards de subventions publiques pour hyper et rien pour l'écologique. Leur but est de vendre des trucs à neutrons, faire croire que c'est propre et les crétins vont croire qu'on a dompté les protons. À travers les plaines de l'Hexagone, il y a encore 58 réacteurs d'échappement fêlés pesant 10 000 tonnes. Des incidents presque tous les jours. Arriva au Niger dans ses mines d'uranium, contamine les villages sans que des gars l'analysent. Sur nos routes, on envoie des convois de plutonium, de quoi niquer des régions dans des camions qu'on banalise. Et même si les trois quarts de l'Europe stop, que le monde entier attend qu'on démantèle, ils font le PR et les ouvriers staffent des journées de ouf au cœur des centrales. Désolé pour ta confiance, ta précieuse insouciance, l'endroit le plus dangereux du globe et peut-être en France. Un seul réacteur pète et la région est dévastée. Sur 100 km à la ronde on serait condamné. Et d'autres plus lentement verront leur rein ne plus fonctionner, leur peau se décomposer, leurs os se désagréger. 60 000 tonnes de déchets par an, on enterre, les outils, les machines irradiées, on enterre, les combinaisons, les gants pollués, on enterre, et puis de place à l'âge, alors dans l'aube, on enterre, et ces abrutis osent dire que leurs sarcophages sont sûrs que durant plus de 20 millions d'années ça va tenir. On laisse le problème à nos arrières, arrière, 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 petits enfants, le seul pays au monde autant équipé nucléaire. Et le plus grand consommateur en antidépresseurs. Désolé, le tableau est bien sombre, mais il est clair qu'il faut le dire et vite enfin sortir du nucléaire.
Un quatrième incident en seulement 15 jours pour la filière nucléaire française. Ça commence à faire beaucoup.
France 3.
Et ça s'est encore passé à la centrale nucléaire du Tricastin dans la Drôme.
24 juillet 2008.
100 salariés ont été légèrement irradiés par une poussière radioactive. Incident classé niveau 0 par l'autorité de sûreté nucléaire. Il n'y aurait aucun risque pour leur santé. Mais sur place, dans la population, c'est l'inquiétude. Myriam Metaoui.
Une centaine d'employés a été touchée par un nuage de poussière radioactive. L'incident s'est produit lors de l'ouverture d'une vanne dans l'enceinte du bâtiment du réacteur numéro 4, alors que le combustible avait été retiré du réacteur pour des travaux de maintenance. La contamination s'est déroulée alors qu'une opération portes ouvertes était organisée sur le site pour rassurer les riverains. Le 7 juillet, une fuite radioactive dans une cuve de l'usine Socatrice spécialisée dans les déchets avait entraîné le limogeage de son directeur. L'incident d'hier a été classé niveau 0 par l'autorité de sûreté du nucléaire. Chaque année, près de 800 incidents classés niveau 0 ont lieu en France, mais c'est la première fois qu'un aussi grand nombre de personnels est contaminé.
Alors nous sommes à Pierre-Latte, voilà une petite bourgade fort coquette et sympathique avec les belles petites rues refaites et pavées du centre-ville. Du mobilier municipal refait, des décorations dans les rues, donc il y a dû y avoir des fêtes dernièrement. Seule ombre au tableau, c'est justement l'ombre des cheminées de la centrale qui sont situées à quelques kilomètres d'ici, sur le site du Tricastin. Et il y a beaucoup de gens ici qui travaillent sur le site du Tricastin, non ?
Il y en a, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, on cherchait des bonhommes pour.
Voilà. Et vous n'y travaillez plus là maintenant ?
Je travaillais il y a 10 ans, j'ai fait 8 ans de déplacement. Je faisais toutes les nucléaires de France.
Sur un poste précis ou sur une tâche précise avec une spécialisation ?
Non, un peu dans divers métiers, un petit peu dans la peinture ou dans la décontamination. Voilà, dans la décontamination ou un petit peu dans la maçonnerie. Donc comme je suis un petit peu intérimaire, donc je suis un petit peu polyvalent à tout corps de métier. Voilà. Je jongle un petit peu avec, avec ce qui vient, quoi.
Mais que dans le nucléaire pendant 10 ans?
Voilà, que dans le nucléaire, ouais. Spécialement que dans le nucléaire.
Et ça paye bien le nucléaire par rapport à d'autres corps de métier, à d'autres...
Ça dépend parce que, bon, c'est à nous de négocier notre horaire, quoi. Hein. Je veux dire, eux, ils vous proposent...
Voilà. Mais vous avez travaillé dans les zones à risque qu'on appelle sous-rayonnement ionisant?
Oui, tout à fait, ouais. Sous-rayonnement ionisant radioactif, ouais. Sans prime de risque. Sans prime de risque. Et de toute façon, on ne pouvait rien dire, quoi.
Mais pourquoi vous pouvez rien dire?
Bah, de toute façon, si on conteste, ça ne change à rien, quoi. Voilà, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est-à-dire qu'on travaille dans leur usine, c'est comme si c'était leur maison pour eux, quoi. Donc ils font, on va pas dire à peu près tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils font vraiment tout ce qu'ils veulent.
Les prestataires, quoi, les...
Non, EDF.
Ah.
Voilà, c'est différent. Les prestataires, on va dire quelque part qu'on est des exécutants. On exécute, tout simplement.
Mais alors, si vous avez voyagé, vous faites partie de ceux qu'on appelle les nomades du nucléaire, c'est ça ?
Exactement, oui, c'est ça. Exactement, ouais. J'ai fait ça pendant 8 ans. Je connais à peu près toutes les ficelles du nucléaire, toutes les chemises bliques quand il y a un problème. Voilà.
Et vous avez vécu comme ça des situations difficiles ?
Il y a eu des fuites.
Des contaminations ?
Des contaminations, ouais, bien sûr. Il y en a eu des contaminations, mais c'est jamais EDF, c'est toujours la faute des prestataires.
Et vous avez jamais craint pour votre santé ?
Tous les 6 mois, on avait droit à la visite, quoi.
Ah, tous les 6 mois une visite?
Tous les 6 mois. Ouais. Maintenant, c'est tous les 1 an. Parce que je sais pas pour quelle raison, mais avant, c'était tous les 6 mois. Donc, prise de sang, test urine, pour avoir des preuves comme quoi que son bonhomme a été en bonne santé, quoi.
Parce qu'après, il y a une histoire de dosimétrie. Non, on ne peut pas dépasser une certaine dosimétrie. Si vous dépassez la dose, vous êtes au chômage.
Avant, oui, ça se faisait. C'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup d'abus parce que les patrons prenaient et les envoyaient au charbon dans les zones rouges, là. On peut prendre pas moins de 20 millisieverts par minute, c'est énorme quand même.
20 millisieverts par minute?
Ah oui, mais je vous parle vraiment dans les endroits vraiment exposés, quoi. Et puis dès qu'il arrivait à un taux à la normale, il était dehors sans même savoir le pourquoi.
Et vous, personnellement, alors vous avez été contaminé des fois ou
ça arrivé,
exposé, irradié?
Ça m'est arrivé, ouais. Exposé, irradié, contaminé, oui, bien sûr. On me donnait des cachets d'iode. C'est un petit peu courant, donc on ne sait pas, quoi. On sait vraiment pas. Même nous, quand on l'attrape, on sait vraiment pas où est-ce qu'on l'a attrapé.
Donc... Et la médecine du travail était alertée, donc si quelque chose se déclarait, je sais pas, hein, parce qu'on ne sait pas ce que ça donne vraiment. Est-ce que ça serait considéré comme une maladie du travail?
Non, du tout. Non, du tout. Comme je vous dis, on nous met à l'extérieur, justement, pour faire le cumul de tout ça, quoi. Voilà, tout simplement.
C'est avant risque et péril, quoi.
Exactement. Il n'y a pas d'accident de travail, il n'y a pas d'arrêt maladie à ce niveau-là, quoi. Non, il n'y en a pas.
97 personnes ont été contaminées par de la poussière radioactive.
France 3.
À des doses jugées toutefois dérisoires après consultation médicale.
24 juillet 2008.
De toute manière, tous ces gens seront revus.
Catherine Banleuil.
Sont déjà revus aujourd'hui et seront revus demain.
Médecin du travail à la centrale du Tricastin.
Pour surveiller l'élimination par les voies naturelles de cette micro-contamination, je dis bien micro, qui n'aura aucune incidence sanitaire chez ces personnes.
Les résultats des consultations médicales ont rassuré les personnels, mais le discours sécuritaire de la direction est rejeté par les scientifiques indépendants de la CRIRAD. Eux refusent la notion de risque sanitaire zéro.
Bon ben, en face de moi, le site nucléaire du Tricastin avec deux magnifiques cheminées, avec leur panache de vapeur d'eau, leur panache blanc de vapeur d'eau. Mais toujours pas d'autorisation pour rentrer ou pour rencontrer quelqu'un qui pourrait me parler de l'incident du 23 juillet 2008, pendant lequel une centaine d'ouvriers ont été contaminés. Donc pour tuer le temps, bah, je vais aller visiter juste en face, ici dans un terrain, un vaste terrain qui ressemble à un parc d'attractions, la ferme des crocodiles. Alors qu'est-ce que c'est que la ferme des crocodiles? C'est une ferme qui est en partenariat avec Areva, donc... exploite cette serre tropicale où vivent des crocodiles, semble-t-il. Allons voir comment se portent les crocodiles.
Alors, c'est quand même, ça pose un petit problème, parce que nous, on veut vous informer. Voilà, et c'est pour ça que Antoine Chao est là, c'est pour vous informer, pour essayer de comprendre. Et qu'est-ce qu'il fait pour essayer de vous informer? Ben, c'est de s'informer lui-même, auprès de la direction. Il a des questions à poser. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des risques? Regardez, quelqu'un comme Mohamed, avec qui on vient de parler, ce nomade, ça s'appelle comme ça. Les nomades du nucléaire, ils sont assez nombreux en France. Est-ce que ce gars-là court des risques? Qu'est-ce qui peut lui arriver par la suite? C'est des questions qui semblent que ça fait pas de vous un fou de merde de poser des questions comme ça? Eh ben si. C'est bien si, c'est des questions qui se posent pas puisque il y a personne pour y répondre. Alors il y a comme une sorte d'effet d'opacité, si vous voulez, qui expliquerait peut-être le manque de confiance des citoyens que nous sommes envers le nucléaire dans notre beau pays. Est-ce qu'on a confiance dans les crocodiles? Voyons.
Alors, vous pouvez me présenter un peu, déjà, c'est cette ferme, c'est municipal,
C'est une société qui a été montée en 94. Donc, c'est parti d'un projet, du projet d'un terrariophile, passionné de reptiles, qui a eu envie de présenter et de démystifier un petit peu les crocodiliens en venant ici dans la Drôme, en présentant ici plus de 300 crocodiles et éventuellement, par la suite, servir pour la science, pour la recherche scientifique.
Alors, je vais rien vous cacher. Moi, normalement, je voulais visiter le site nucléaire de Tricastin, mais en ce moment, je crois qu'il y a quelques problèmes.
Oui. Hein,
voilà. Mm-hmm. Donc, pour pas rentrer bredouille, je vais essayer de faire quelques reportages autour de la centrale. Donc là, comme vous avez quand même une activité, je dirais, connexe, on va dire, mm-hmm. on va en profiter. On va faire un petit tour hein, si ça vous dérange pas.
Pas de problème.
J'ai cru comprendre qu'il y avait une synergie avec les eaux chaudes rejetées par la centrale.
Voilà, c'est-à-dire que nous récupérons les eaux chaudes permettent de nous chauffer, nous, notre circuit. Ça s'inscrit dans une dynamique de développement durable. Cette eau chaude, au lieu d'être rejetée dans le Rhône, on peut l'utiliser, nous, ici, de manière à recréer un environnement tropical.
Vous avez combien d'espèces de crocodiles différentes?
Nous, on présente 9 espèces.
Et sinon, pour les crocodiles, il n'y a pas eu de, comme ça, d'effets collatéraux des...
Aucunement. Aucunement, ça n'a pas touché. Nous, c'était, je crois que j'ai plus. Bon, on n'a pas été tout à fait au courant exactement de ce qui s'est passé, mais les fuites qu'ils ont eues, ça n'a eu aucun impact déjà parce qu'on est en amont, et ensuite parce que c'est sur des circuits qui n'ont aucun rapport avec les nôtres.
Alors, les conditions sont complètement recréées, non? Parce que vous manquez pas d'eau chaude, j'imagine, avec
on
la
manque,
centrale.
Non, on manque pas d'eau chaude. Enfin, donc ces eaux chaudes qui nous permettent de chauffer notre eau à nous. On a les bassins qui sont chauffés, on a la serre qui est chauffée.
Et quand vous disiez que vous étiez en amont, c'est-à-dire donc il y avait aucun danger pour les animaux.
Pour les animaux, aucun danger.
Parce que vous êtes en amont de quoi, je comprends pas.
Bah, du circuit, du sens dans lequel ça a été, dans le sens de l'écoulement, dans le sens du bassin versant.
D'accord.
Donc là, c'est 8 individus qui nous ont été prêtés par la ferme, le reptilarium du Mont-Saint-Michel.
D'accord. Donc il n'y a aucun danger pour les crocodiles?
Non.
D'accord.
Non.
Est-ce que du coup, ils sont venus faire ici des prélèvements pour laver tout doute possible? D'accord.
Ça a été fait.
D'accord.
Ça a été fait. Je ne sais pas les résultats, mais ça a été fait.
Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Je sais pas trop, moi je suis un peu...
Bah là, bah oui, c'est vrai, si votre sujet à vous c'était le nucléaire, là vous êtes pas du tout dans le nucléaire.
Non, mais ça, il y a eu des cas déjà d'irradiation ou alors d'empoisonnement des crocodiles, on sait pas s'ils ont une résistance particulière.
Après, il n'y a pas d'études qui ont été faites sur la résistance des crocodiliens au rayonnement ionisant. Après, ici, c'est pas le but, on n'est pas venu ici implanter, on se sert pas des eaux du Tricastin pour mettre en évidence une corrélation entre que les crocodiliens se baignent dans une eau qui vient d'eux un réel facteur influençant sur leur écologie à eux, sur leur biologie à eux.
Sinon, vous parlez d'un partenariat scientifique, mais pas sur ce sujet-là.
Ah non, rien à voir, nous ça reste de l'écologie.
Bonjour, bienvenue chez EDF, centre nucléaire de production d'électricité de Tricastin. Merci de rester en ligne, nous allons donner suite à votre appel.
Veuillez nous inviter. Oui, son poste n'a répond pas, je lui laisse un message.
Ah oui, c'est gentil, oui.
D'accord,
c'est bien. Oui. Ben oui, parce que j'attends là, déjà depuis quelques jours.
D'accord.
Donc c'est au sujet des 97 employés, vous savez, qui ont été contaminés le 23 juillet, voilà.
D'accord.
Donc je voulais voir le médecin, il m'avait proposé de voir le médecin du travail. Donc pour l'instant, j'ai pu voir que la ferme des crocodiles, donc les crocodiles vont bien. Mais bon, ça d'accord. ne ça, ça va pas rassurer nos auditeurs de France Inter, quoi.
Ouais.
Vous
d'accord.
comprenez?
Oui,
oui.
J'aimerais
bien, oui.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà. Vous avez vu ce qu'on veut faire, nous, c'est vous rassurer. C'est vous rassurer, mais c'est pas facile. Alors, on va quand même essayer d'en savoir un petit peu plus avec Virginie Neumeyer de la CGT, qui elle aussi fut dans sa vie une nomade du nucléaire, ce qu'elle n'est plus aujourd'hui, et ce qui lui permet de nous donner quelques éclairages.
Virginie Neumeyer, vous êtes secrétaire générale CGT à la centrale EDF du Tricastin. Vous êtes très sollicitée en ce moment parce que vous êtes en retour d'expérience, c'est ça que vous m'avez expliqué au téléphone?
Donc hier, nous avons, à notre demande, la demande de la CGT était un retour d'expérience sur l'incident qui s'est passé tranche 4 le 23 juillet sur Tricastin, où à peu près 80 salariés ont été soumis à une contamination interne. Et ce qui était posé par la CGT, c'est un suivi de ces salariés-là, un suivi médical, puisque à la fois des agents EDF, mais à la fois des agents prestataires qui évoluent sur d'autres sites, qui n'ont pas de rapport très proche avec leur médecin de travail, se posent des questions, et notamment sur les effets que pourraient déclencher les faibles doses auxquelles ils ont été soumis à moyen terme ou à plus long terme.
Pour ces 80, on va parler de ce cas-là. Est-ce que les 80 personnes qui ont été contaminées sont déclarées comme accidentées du travail ?
On ne peut pas, au sens aujourd'hui de la réglementation, parler d'accident de travail. Pourtant, cet incident n'aurait pas dû se passer.
Alors s'il n'y a pas d'accident de travail, ça veut dire que la contamination fait partie du travail ?
Non. L'acceptabilité du risque nucléaire, donc, est un compromis avec l'ensemble de la population. L'analyse qu'a porté la CGT en CHSCT et que les arrêts de tranche, c'est-à-dire les travaux pour maintenance, sont tellement courts, les objectifs de rentabilité sont tellement hauts que les salariés, quand ils commencent leurs travaux, doivent être amenés à le terminer dans une durée tellement peu importante que ça ne leur permet pas de travailler dans de bonnes conditions. Donc cet incident n'aurait jamais dû avoir lieu si on avait pris en compte ce qu'on portait en termes de temps nécessaire à l'intervention et de moyens. Depuis de très nombreuses années, depuis que EDF externalise les activités et sous-traite aussi donc les problèmes afférents aux salariés, c'est-à-dire les conditions d'intervention, les conditions de travail, les accidents de travail aussi sont sous-traités.
C'est-à-dire
EDF met les contraintes sur des PME ou des TPE parfois, des très petites entreprises, et les contraint effectivement à réduire le nombre d'intervenants nécessaires à effectuer une opération de maintenance.
Alors, sur le site du Tricastin, combien d'employés EDF et combien de sous-traitants comme ça en moyenne ?
Donc aujourd'hui, 1200 salariés EDF statutaires sont employés sur le site, 500 salariés permanents qui travaillent toute l'année sur des travaux effectués tout au long de l'année, et environ sur les arrêts de tranche, c'est très fluctuant, on en peut avoir entre 500 et 1000 salariés qui traversent le site EDF comme les sites Areva.
Alors, on nous a parlé des salariés d'EDF, ceux qui sont les permanents, les salariés qui sont environ au total 1700, mais il y a ceux qui traversent, c'est-à-dire les intérimaires, c'est-à-dire ces fameux nomades. Alors, dans quelles conditions travaillent-ils exactement ? C'est très flou tout ça, c'est très vague, on l'a vu au début de ce reportage avec Mohamed. Voilà quelqu'un dont je ne peux pas dire le nom parce qu'il a préféré rester anonyme. Ça dit tout sur les risques et les risques aussi de perdre son boulot, mais qui a tenu quand même à témoigner.
Alors, j'ai toujours pas eu de réponse pour pouvoir aller visiter la centrale EDF du Tricastin. Donc, moi qui voulais avoir des nouvelles sur les ouvriers qui ont subi cet incident, on va dire, du 23 juillet. Alors, peut-être que vous qui travaillez sur le site, vous pouvez me donner quelques informations et vous vous tenez très au courant. Donc, vous avez un peu une revue de presse de comment Areva et EDF voient la chose. Le Dauphiné libéré, daté du 31 janvier 2008, les vœux d'Areva, d'EDF et du CEA, le nucléaire se porte bien.
Ah oui, bien sûr, elle se porte bien. Aujourd'hui, le réchauffement climatique qui fait que l'industrie nucléaire se veut une industrie propre, qui ne dégage pas de gaz à effet de serre, ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, il y a le problème des déchets et surtout le problème des salariés, des hommes et des femmes qui travaillent sur ces installations. Et aujourd'hui, les conditions ne sont plus acceptables, quoi. On ne peut plus faire des activités en sécurité, en garantissant la sûreté et en faisant de la qualité. C'est quand même trois critères qui sont importants. Cette situation fait qu'aujourd'hui, on a des événements, des petits incidents, des accidents. C'est des choses qui ne se voyaient pas il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, EDF fait des appels d'offres à des prestataires extérieurs. EDF ne choisira jamais le dernier de la liste, le plus bas prix, mais il prendra l'avant-dernier. On regarde le tarif, et puis tant pis si c'est pas fait dans les règles de l'art. une équipe de 8, si je peux en mettre que 4, ça sera très bien. Donc des gens qui ne sont pas qualifiés, des gens qui débarquent dans l'industrie, ils ont fini leur formation le vendredi, et puis le lundi, ils attaquent sur un CNPE, quoi. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec des intervenants qui manquent d'expérience, surtout. Et quand ils sont livrés à eux-mêmes, et c'est là qu'on encourt de grosses déconvenues, quoi. D'accidents, de problèmes de contamination, de sûreté. Enfin, il y a après beaucoup de choses qui rentrent en compte, quoi. Et nous allons au-devant de gros problèmes, de gros pépins. Et puis là, une fois que l'incident aura eu lieu, il sera trop tard pour agir. Aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est grave.
Alors là, pour revenir sur ce qu'ils appellent l'incident du 23 juillet,
oui.
Donc il y a eu une centaine, c'est ça, d'ouvriers qui ont été contaminés, d'intervenants.
Alors les chiffres, oui, parce que bien sûr, heureusement, on sait les gens qui interviennent en zone contrôlée, ils sont comptabilisés. Donc on sait exactement qui était présent, malheureusement, ce jour-là, de l'incident. Donc sur toutes les personnes qui ont passé des entrepôts gammamétriques et de contrôle de contamination interne, certains d'entre eux étaient au-dessus des seuils. D'autres étaient en dessous des seuils. Et puis, les gens ont repris leur travail, on va dire, comme si de rien n'était. Parce que, bien sûr, les communiqués médecine du travail EDF, et puis de la direction EDF, tout simplement, de dire qu'ils appellent ça une micro-contamination. C'est vrai que c'est inférieur au seuil annuel, mais est-ce que l'on peut être sûr que dans 15, 20 ans, les gens n'auront pas de séquelles de cet incident, de ce fameux jour du 23 juillet ? Aujourd'hui, avec beaucoup de questions qui restent quand même en suspens, côté médical, parce que donc, une contamination interne, inévitablement, ça ne peut avoir que des conséquences. Alors, aujourd'hui, le salaire non plus n'est pas motivant. Hein. On prend au SMIC, dans le nucléaire, on travaille en 3-8, on démarre une campagne, on ne sait pas quand elle s'arrête. Le cas est à Tricastin, où il y a encore deux tranches qui sont en arrêt. Et un incident qui est assez sérieux quand même sur la tranche 2. Deux éléments combustibles qui sont suspendus et qui risquent de tomber. Donc c'est une première mondiale. Il y a eu une similitude en 99 à Nogent. Il y a un élément combustible qui est resté accroché. Et Tricastin, malheureusement, nous avons deux éléments et ça sera donc une première. Et ce n'est pas une situation normale.
Welcome to EDF Tricastin Nuclear Power Plant.
Je suis Alain Pecre, donc le directeur de la centrale de Tricastin, et je suis accompagné donc de Catherine Bailleul,
qui est le médecin du travail de la centrale.
Formidable. Alors je n'ai pas pu visiter les installations, hein, bien que j'ai passé 3 jours sur Pierlatte et c'était compliqué. Je comprends, notamment surtout en ce moment avec la situation critique que vous vivez en ce moment. Mais alors, comment vous expliquez tous ces dysfonctionnements dernièrement?
On peut avoir effectivement des dysfonctionnements, mais moi, ma priorité absolue, c'est la sûreté des installations et la sécurité des personnels. Maintenant, quand on a un événement qui arrive sur le site, il est important qu'on puisse communiquer en toute transparence. Et je vous ai dit, moi, je déclare une quarantaine d'événements par an. L'analyse de tous ces événements, elle est supervisée par l'autorité de sûreté indépendante.
Et c'est vous qui préconisez le classement à la SN, c'est bien ça. C'est vous qui préconisez le niveau.
Le niveau, il est toujours proposé par l'exploitant et c'est l'autorité de sûreté qui, au final, décide du niveau, soit 0 ou soit niveau 1. Laisser apparaître dans l'esprit la sûreté n'est pas la priorité absolue, c'est une erreur fondamentale.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une dilution de la chaîne de responsabilité quand il y a une cascade de sous-traitants? C'est ça la question.
La sûreté, je peux vous dire qu'elle est vraiment partagée sur le terrain par... par tous, hein, et heureusement.
D'accord, donc pas d'inquiétude.
Pas d'inquiétude du tout.
D'accord, bon, je vous remercie.
Je vous laisse avec Catherine Bailleul, alors.
Je vous écoute.
Oui, bonjour madame. Vous étiez en service, on va dire, ce 23 juillet, c'est ça, donc le jour de la contamination d'une centaine d'ouvriers, ou combien exactement?
117 personnes ont été concernées par cet incident, à des niveaux extrêmement faibles. Le bilan fait montre que c'est moins d'une radiographie pulmonaire. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été aussi classé au niveau zéro, parce qu'il n'y a pas eu d'incidence sanitaire sur les personnels.
En tout cas, dans un premier temps, quoi.
Non, je suis formelle. En tant que médecin, je sais que beaucoup susurrent des conséquences style cancer, leucémie, etc. Je suis formelle en tant que médecin, à ces niveaux-là, il ne peut pas y avoir d'effet sanitaire sur les gens à court ou long terme.
Vous niez la controverse scientifique sur ce sujet-là?
Non, tout est fonction de la dose. Il ne peut pas y avoir de choses radio-induites à ces niveaux-là.
Donc si je comprends bien, la contamination, même la faible contamination, fait partie du travail de ces DATR, qui voulait dire directement affectés aux travaux sous rayonnement.
Non, ça ne fait pas partie de leur travail, fort heureusement. Soyez persuadés que je suis très soucieuse de la santé du personnel EDF comme entreprise extérieure.
Est-ce qu'il vaut mieux pas un surplus justement de précaution dans ces cas-là et justement déclarer un accident de travail pour pouvoir anticiper une maladie potentielle à venir ?
Non. Si vous voulez, l'accident de travail, c'est constater une lésion qu'on met en relation avec le travail. Après, vous avez le cadre des maladies professionnelles, mais là, à ces niveaux-là, vous ne pouvez pas avoir de lésion. J'exerce depuis plus de 25 ans dans une centrale nucléaire, donc il ne peut pas y avoir d'effet sanitaire à ces niveaux-là.
Est-ce qu'il n'y a pas une confusion là des genres ? Vous êtes à la fois donc juge et partie, étant salarié d'EDF et médecin du travail pour les prestataires d'EDF.
Excusez-moi, je souris parce que c'est une des questions habituelles qu'on nous pose. Je ne suis pas salarié EDF, je suis complètement hors hiérarchie dans EDF, c'est-à-dire que le chef de la centrale n'est pas mon chef hiérarchique. Voilà. Je le fais en toute éthique médicale.
Non, je n'en doute pas, mais qui est votre chef hiérarchique alors ?
Le médecin coordonnateur des médecins du travail du nucléaire.
Qui dépend de l'ASN de...
Qui est au niveau EDF, mais j'estime pouvoir m'exprimer en toute indépendance.
Le ciel d'EDF, bonjour. Pour mettre le service en pause, tapez dièse. Merci.
La ferme Crocodile, Pierre Latte, en face de la centrale nucléaire du Tricastin, septembre 2008.
Et bon, dernière question. Hein. Et donc j'imagine que dans un secteur comme ça, si proche du nucléaire, pour les habitants, il y a des consignes de sécurité, il y a des fois des...
On a des procédures, alors, oui,
vous avez des procédures, on a des procédures aussi, pour les crocodiles.
Pour les crocodiles, oui. Enfin, ce sont des procédures de confinement de la même manière que pour les individus humains. La seule différence, c'est que nous, on ne va pas faire un recensement des crocodiles. On ne va pas s'amuser à descendre dans les bassins. C'est simplement, nous, déjà, on a aucun animal qui est dehors. On n'est pas en extérieur.
Ils sont déjà un peu protégés.
Donc déjà, ils vont rester dans ce qu'on appelle l'espace de confinement. Et puis voilà, non, pour les crocodiles, il n'y a pas de...
Et j'imagine qu'il y a un procédé aussi pour couper l'alimentation d'eau s'il y avait un accident majeur.
Tout à fait. D'accord. Tout à fait.
Ça, c'est prévu.
Sur un bouton, on arrive, tac, et c'est terminé.
D'accord. C'est jamais arrivé encore.
Non.
Là, cet été, vous n'avez pas eu à couper.
Pas que je sache.
D'accord.
Allô ?
Oui.
Oui, quittez pas, monsieur.
Merci. Bah écoutez, moi donc je fais une émission sur les suites de l'accident de l'incident du 23 juillet. J'aurais aimé savoir c'est s'il y avait justement une sous-traitance d'Areva sur ce chantier.
Alors là, Areva Tricastin n'a rien à voir avec tout ça.
Je vais donc attendre que EDF me rappelle. Parce que moi là, le seul élément tangible, bon ça va vous faire rigoler, mais comme j'ai pas pu rentrer sur le site, je suis allé visiter la ferme des crocodiles. Qui est en face, donc qui est en partenariat avec Areva, c'est ça, vous fournissez de l'eau chaude.
Des calories, oui.
Donc voilà, c'est pas un élément qui va vraiment rassurer nos auditeurs, que les crocodiles se portent bien, vous êtes d'accord avec moi?
Ils ont la vie dure en plus, les crocodiles. Ça vit 100 ans.
Ah oui, d'accord.
D'accord, mais tout dépend de votre reportage. Moi, je sais pas quel est votre reportage. Là. Quelle idée d'aller interviewer des crocodiles, quoi. Enfin, la ferme aux crocodiles, je sais pas.
Mais nous, on s'intéresse aux conditions de travail des intérimaires dans le nucléaire. Donc, voilà.
Ah. Bon, bah, c'est pas des sujets qui sont les nôtres actuellement, quoi. Écoutez, si jamais je sais quel contact, je vous promets que je vous appelle et je vous le dis.
C'est gentil.
C'est telle personne, c'est tel numéro.
Merci beaucoup.
Dans tous les cas, ça, c'est pas nous. Ok.
Merci bien. Donc à peu près la seule information tangible que j'ai pu avoir autour du site de Tricastin, c'est que les crocodiles ont la peau dure.
D'accord.
Donc la question, c'est de savoir si les intérimaires qui étaient là le 23 juillet ont la peau aussi dure que les crocodiles et n'ont rien à craindre pour leur santé. C'est un peu ça la question. Donc je me tourne vers les sources non officielles.
Donc je m'appelle Bruno Charéran. Donc de formation, je suis ingénieur en physique nucléaire et je suis responsable du laboratoire de la CRIRAD. Depuis 1993. CRIRAD, ça veut dire Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. C'est une association, loi 1901, qui a été créée en 1986, après la catastrophe de Tchernobyl, puisqu'à cette époque, l'État français nous a menti. Un communiqué du ministère de l'Agriculture disait, en raison de son éloignement, le territoire français est totalement épargné par les retombées consécutives à la catastrophe de Tchernobyl, ce qui évidemment est faux, et à des niveaux qui auraient vraiment nécessité des mesures de protection dans l'Est de la France, en Corse. Ces doses pouvaient largement dépasser les limites sanitaires en vigueur à l'époque. Donc depuis que la CRIRAD existe, assez régulièrement, on va donner un coup de main, de façon informelle ou formelle, à d'anciens travailleurs, qui ne sont pas forcément que des intérimaires d'ailleurs, des travailleurs du nucléaire ou d'autres entreprises qui ont été confrontés à une contamination ou à une irradiation. Par exemple, on avait étudié il y a une dizaine d'années maintenant un travailleur, M. Pierre Allemann, qui a travaillé au CERN, ce fameux laboratoire de recherche sur le nucléaire et surtout sur la physique des particules, qui travaillait à l'époque, lui, en sous-traitance sur la gestion des déchets radioactifs du CERN et qui travaillait dans des conditions assez invraisemblables, hein, insuffisance de sa protection par rapport à la radioactivité, insuffisance de sa formation. Il a eu ensuite un cancer du poumon. Il est dans une procédure d'ailleurs judiciaire. On l'a aidé en faisant des mesures dans son environnement de travail, justement. Et on a pu démontrer à cette occasion qu'il y avait des déchets radioactifs qui sortaient du CERN et qu'on retrouvait dans des poubelles banales. On a aidé d'autres personnes, on a essayé d'aider en tout cas un autre ancien travailleur qui s'appelle Monsieur Leclerc, qui lui travaillait pour une entreprise sous-traitante qui travaillait à la Comurex. C'est une filiale d'Areva à Malvésie, près de Narbonne. Donc là, c'est une usine de purification, concentration de l'uranium. Lui souffre d'une forme de leucémie qu'il a découvert plusieurs années après avoir quitté ce travail. Et lorsqu'il a essayé d'avoir des pièces de son dossier médical, il s'est aperçu qu'à l'époque où il travaillait pour un sous-traitant de la Comurex, il y a eu à un moment une contamination en uranium assez importante dans ses urines. Alors, il est en procédure judiciaire lui aussi, et ça n'aboutit pas, ça traîne, c'est très extrêmement compliqué. Le discours officiel de l'exploitant, c'est de dire que si une contamination en uranium a été détectée à l'époque dans ses urines, c'est probablement parce que le prélèvement a été mal fait, et que c'est le flacon qui était contaminé, et non pas lui. Donc, ce que je veux dire à travers ces deux exemples, M. Pierre Allemann qui travaillait au CERN et M. Leclerc qui travaillait à Comurex, c'est que ces gens se retrouvent dans une situation qui est très difficile, à tous les points de vue, et en particulier au niveau humain, au niveau personnel, parce que très souvent, à partir du moment où ils essaient de dénoncer des dysfonctionnements pour faire évoluer la situation, ils ont des pressions de l'exploitant, enfin de leur employeur, y compris de leurs collègues de travail. Et ça, pour eux, c'est très très difficile à vivre. Nous, on est prudents, puisque, si vous voulez, on n'est pas habilité à aller à l'intérieur des installations nucléaires. Lorsqu'on demande ne serait-ce qu'à faire des prélèvements des eaux souterraines, quand même pas grand-chose, hein. On nous refuse l'accès, hein, encore récemment d'ailleurs au Tricastin, après l'incident de la Socatrie, on a demandé à aller faire des prélèvements dans le site, la direction nous a refusé de le faire. Par contre, à travers ce que nous disent ces travailleurs, il n'y a pas de raison de ne pas les croire, hein, parce qu'ils disent tous à peu près la même chose, c'est que depuis quelques années, pour faire des économies, EDF veut diminuer la durée des arrêts de tranche, pour que ça coûte le moins cher possible, mais la conséquence, c'est qu'il y a du recours à des personnels qui ne sont pas forcément bien formés, pas assez nombreux. Donc, ce qu'on peut voir, nous, de l'extérieur, c'est qu'il y a vraiment une inquiétude, une angoisse chez ces personnels pour eux-mêmes, leur santé, leur protection, mais aussi pour la sûreté nucléaire avec un grand S. Et là, ça nous concerne en plus en tant que citoyens, puisqu'il s'agit de l'environnement de tous les Français.
Voilà, merci à tous. C'était un reportage d'Antoine Chao sur des incidents survenus en juillet 2008, l'été 2008, qui vous avaient été diffusés une première fois en partie le 29 septembre de la même année. Merci à Virginie Neumauer, merci à Bruno Charéron et à Mohamed, à Anité Beaumoni. Merci également. L'industrie nucléaire, sous-traitance et servitude, a été publiée à l'INSERM en décembre 2000. Et puis là, j'apprends que le ministre français de l'énergie, Éric Besson, s'est dit surpris et choqué par les déclarations du commissaire européen à l'énergie, Günther Oettinger, affirmant que les réacteurs nucléaires européens n'étaient pas tous à la hauteur des plus hautes normes de sécurité. Je suis surpris et choqué par ces déclarations qui sont de nature à inquiéter nos citoyens et à jeter le discrédit sur une industrie, a dit monsieur Éric Besson dans une déclaration écrite à l'AFP. Donc, à suivre, vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez également écouter cette émission à nouveau sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Éric Morin et Michel Bézikian, c'est Coy Nguyen et Franck Allerer qui ont réalisé cette émission, assisté d'Agnès Lebot, Marina Touyès, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.